Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 5. Je reçois Marie, écologiste convaincue depuis 20 ans, qui après avoir travaillé longtemps en tant que salariée, a décidé il y a 3 ans de passer plus de temps sur ses activités associatives et artistiques liées à l'écologie. Elle nous raconte comment la pratique du chant lyrique permet de faire passer des messages sur des sujets souvent peu glamour, et en quoi l'action collective est essentielle pour faire bouger les choses. Bonjour Marie.
Bonjour Jean-Philippe.
Alors Marie, tu es ingénieure et urbaniste de formation, diplômée à la fois des Ponts et Chaussées et de Polytechnique en 2000. Tu as travaillé pendant longtemps en maîtrise d'ouvrage urbaine pour de grandes entreprises parapubliques, dont la RATP, la SNCF et l'établissement public d'aménagement de la Défense, avant de changer d'orientation en 2018 pour devenir consultante indépendante et monter des projets audacieux qui lient culture et écologie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer ce qui t'a amené à ces nouveaux choix professionnels ?
Je suis une écolo convaincue depuis pratiquement un peu après la fin de mes études, et notamment après avoir lu un article de Jean-Marc Jancovici en 2002, je m'en rappelle très bien, dans Télérama, sur le réchauffement climatique dont j'avais jamais entendu parler, je crois. Et ça m'a travaillé de plus en plus, je me suis un peu renseignée sur le sujet. Et l'urgence environnementale a grandi, évidemment. Donc, je me posais de plus en plus de questions sur le sens de mon travail, qui était pourtant, a priori, l'urbanisme. J'avais quand même choisi ça parce que ça avait un sens d'utilité publique et d'intérêt général, mais je trouvais que ce n'était pas assez écolo. À partir de 2012, j'ai commencé à avoir une fatigue qui grandissait aussi sur la qualité de vie au travail, comme on dit.
Alors peut-être avant de revenir sur ton expérience précédente en tant qu'urbaniste, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui ?
Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est une question à laquelle jusqu'à il y a quelques mois, j'avais toujours du mal à répondre puisque j'ai un peu tout changé. Donc maintenant, je sais bien répondre. Donc, je suis consultante sur des sujets un peu plus environnementaux qu'avant, mais quand même en lien avec mon métier d'urbaniste. Je travaille en particulier pour la filière bois-construction, puis j'ai d'autres missions ponctuelles. Et j'essaye de faire ça à temps partiel, mais à temps très partiel, pour pouvoir d'une part m'occuper de mon bébé qui a 15 mois et pour pouvoir d'autre part me consacrer à d'autres projets bénévoles, soit dans des cadres associatifs, soit un projet artistique que j'ai monté qui s'appelle Demain, qui propose des lectures écolo-musicales, projet qui me tenait pas mal à cœur. Et puis j'enseigne aussi à l'école des Ponts et dans une école d'architecture, donc tout ça c'est des petits bouts d'emploi du temps qui s'ajoutent.
Oui, ça fait pas mal d'activités. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus en détail peut-être commencer par Demain.
Je veux bien commencer par Demain parce que c'est mon projet préféré. C'est celui qui me coûte le moins d'argent. J'ai une pratique artistique amateur depuis très longtemps et en particulier, je fais du chant lyrique depuis une quinzaine d'années. Je me produis dans des petits spectacles, des petits ou gros spectacles. D'ailleurs, j'ai quand même chanté au Palais des Congrès en 2016. Mais donc, des petits spectacles mis en scène. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie. Et donc, je m'étais posé la question de comment croiser ça avec l'écologie. Sachant que je ne fais pas de la chanson variété, je ne me sentais pas de devenir une chanteuse engagée avec sa guitare qui allait écumer les festivals. Et puis j'adore lire par ailleurs, et pour monter mes cours sur la transition écologique, j'ai lu énormément pour monter une bibliographie pour mes étudiants, des ouvrages, des essais sur l'écologie, mais aussi de la science-fiction, des choses assez variées. Et du coup, m'est venue l'idée de combiner des lectures, puisque j'ai fait un peu de théâtre aussi, quand je me suis arrêtée de travailler, J'avais envie de faire du théâtre. Et donc, j'ai combiné lecture à haute voix et musique pour fabriquer ce petit spectacle qui a dimension un peu variable, qu'on peut faire, qu'on a fait dans des friches un peu à l'arrache, comme ça, entre un RER et une autoroute, et puis dans des salles un peu plus formelles, avec une dimension plus institutionnelle, on va dire.
Alors, je me sens un petit peu bête, mais est-ce que je peux te demander de m'expliquer, peut-être en trois mots, ce que c'est que le chant lyrique ?
Ah. bah, c'est de l'opéra.
D'accord, super.
Tout simplement, en toute modestie.
Voilà, bah en un mot, magnifique. Comment est-ce que tu arrives à relier chant lyrique et écologie ?
Dans Demain, je chante pas. Je suis plutôt récitante. Je chante un petit peu, mais plutôt, c'est plutôt de la variété. Parce que, en fait, techniquement, tout bêtement, c'est quand même assez compliqué de passer de la lecture de Pierre Rabhi ou de Jean-Marc Jancovici ou de Pierre Ronsard à tout d'un coup un air d'opéra. Ça s'est révélé assez compliqué à exécuter pour moi, et puis dans la forme du spectacle, c'était pas très adapté. Donc, on a l'idée, si on trouve des endroits pour produire le spectacle dans des salles un peu plus grandes avec un peu plus de moyens, de pouvoir inviter une chanteuse ou d'autres musiciens. Et pour l'instant, on le fait dans une petite forme théorbe, donc c'est de la guitare baroque. Très bel instrument du XVIIe siècle, et voix, parler et un petit peu chanter.
Et il y a des sujets en particulier que tu abordes ?
L'idée, c'était plutôt d'avoir une évocation poétique de ces sujets qui sont graves, avec l'idée d'avoir un moment de méditation un peu pour chacun, et que chacun puisse découvrir ces textes et un peu les vivre comme il le souhaitait. Parce que la façon dont on réagit émotionnellement à la crise écologique, c'est un sujet qui me travaille, c'est un sujet qui me déprime évidemment, ce qui est le cas de tous ceux qui travaillent un peu sur le sujet. Et donc d'arriver à vivre ou exprimer ses émotions d'une autre manière, dans un autre cadre, ça me paraissait important. La musique, elle apporte ce cocon de réflexion. Alors parfois c'est... J'étais surprise, même la première fois qu'on a fait le spectacle, il y avait des gens qui étaient en larmes à la fin, donc c'était pas mon intention non plus de déclencher trop de mettre les gens pas bien avec ce spectacle, mais en fait j'ai plutôt eu des retours positifs, de découverte, d'avoir envie de lire, ça pour moi c'était un super cadeau, des gens qui me disent « ah c'est super », ou des conseils de lecture, et puis aussi bah, des gens qui ont passé un bon moment et qui se sont... à qui ça a permis de se questionner. Donc, pour moi, c'est aussi une forme de sensibilisation. Donc, après, les choix de lecture, c'est plus en fonction de leur qualité théâtrale, j'allais dire. Alors oui, j'ai trouvé des qualités théâtrales chez Jean-Marc Jancovici. si. Et donc, je fais un travail de combinaison de ces textes pour que ça fasse quand même un spectacle. C'est pas un cours magistral au Collège de France avec des textes d'auteur. On est censé passer un moment... divertissant, même s'il est assez émouvant. Et puis du coup, je l'avais décliné l'année dernière, l'été, on avait pas mal joué. On avait été invité dans des endroits qui avaient des thèmes. Par exemple, au Printemps des Poètes l'année dernière, le thème c'était l'animal au jardin, si je dis pas de bêtises. Donc on avait fait une lecture sur le thème de l'animal. J'étais allée chercher un texte de Val Plumwood qui s'appelle L'œil du crocodile, où elle raconte comment elle a commencé à réfléchir sur notre rapport à la viande quand elle a failli se faire manger par un crocodile.
Très intéressant, ouais. Ok.
Voilà, donc c'est... Et puis on avait joué dans un festival écoféministe, donc j'avais essayé de faire un programme 100% féminin, et j'ai bien galéré parce que, évidemment, les autrices écoféministes sont beaucoup plus rares, malheureusement, dans les publications que les auteurs. Bon, en tout cas, je les connaissais moins.
Est-ce que vous avez des représentations de prévues ?
Alors
bientôt ?
Avec le Covid, ça s'est un peu planté en plein milieu. On avait des dates qui ont été annulées. Donc je pense qu'on reprendra les représentations dans quelques mois quand les différentes tempêtes seront passées. Mais d'ailleurs, on cherche des lieux pour se présenter. si jamais il y a des gens intéressés dans les auditeurs.
Bah, très bien, voilà. Donc s'il y a des gens qui nous entendent et qui ont des lieux et qui ont envie de découvrir le chant lyrique écologique, voilà, bah, je mettrai tes contacts.
Avec plaisir, merci.
Et Marie, autre question, autre activité, tu es aussi professeur dans deux établissements. Qu'est-ce que tu enseignes? À quel type d'étudiants?
J'ai commencé par enseigner dans la formation que j'ai suivie à l'École des Ponts pour me spécialiser en urbanisme. C'est un master professionnel, donc avec des étudiants qui ont déjà une première formation. Ils sont architectes, ingénieurs, géographes. Donc c'est l'équivalent d'un master 2, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai commencé par y faire de l'encadrement de projets de fin d'études, ce qu'on fait souvent dans les écoles d'archi et les formations d'urbanisme. Les étudiants travaillent beaucoup, apprennent beaucoup en faisant du projet en équipe. Et du coup, il y a des enseignants qui les accompagnent pour les aiguiller dans leur rapport à leurs commanditaires, puisqu'ils ont des clients, on les met en situation professionnelle. Et puis, on leur donne aussi des références bibliographiques ou des conseils techniques. Donc, j'ai commencé par ça. Et puis, petit à petit, on m'a sollicité pour faire des conférences. Alors, d'abord sur mon métier, l'aménagement urbain, mon métier de départ. Et puis, de plus en plus, sur les questions écologiques, puisqu'en fait, l'enseignement supérieur, aujourd'hui, c'est pas glorieux en termes d'enseignement de la transition écologique. Il n'y a vraiment pas grand-chose, sauf dans les disciplines spécialisées. Or, moi, je suis convaincue que la formation, c'est la base pour mettre toute la société dans la transition qui est nécessaire. Donc, il faudrait, à mon sens, enseigner des notions d'écologie et en particulier sur l'urgence climatique dans tous les secteurs. Du coup, c'est ça que j'ai proposé à l'École des Ponts et puis à l'École d'architecture de Belleville, où on m'avait sollicité plutôt pour des cours sur la gestion de projet et l'aménagement urbain. Et petit à petit, je suis devenue un peu la madame transition écologique dans ces formations, ce qui m'a permis de me former aussi au démarrage, en même temps que je me formais dans des cadres associatifs. Et je suis très contente de faire ça. Et ça me permet de voir aussi comment la préoccupation de ces sujets grandit chez les jeunes étudiants. Elle est beaucoup plus forte et ils sont beaucoup plus au fait que beaucoup de professionnels. Et donc, on les prépare aussi à affronter un contexte professionnel où ces questions sont prises en compte, mais ne sont pas traitées, en fait. C'est-à-dire que tout le monde, dans les entreprises, quasiment tout le monde est convaincu maintenant, mais les pratiques ne changent pas. Et donc, il y a la fameuse dissonance cognitive là, qui n'est pas évidente à traiter. Et donc, j'ai monté à l'École des Ponts un atelier de projet qu'on a intitulé « Ville post-carbone » pour essayer de confronter les étudiants à « bon, mais qu'est-ce que vous feriez si on vous demandait vraiment d'imaginer la ville telle que l'urgence climatique, c'est cet angle-là qu'on a pris, le réclamait ?» Et ils font cet exercice un peu exploratoire qui est assez intéressant.
Donc tu leur donnes des outils qu'ils pourront ensuite utiliser en entreprise, sachant que pour l'instant, ils n'ont pas ces outils en entreprise.
C'est l'idée. Alors c'est compliqué parce que après ils se retrouvent en entreprise dans des cadres qui sont beaucoup plus fermés, notamment avec des contraintes économiques qui ne leur permettent pas de faire ces explorations. Mais on fait le pari avec les autres enseignants et le directeur du master que ça leur servira à un moment ou à un autre, que les choses finiront par s'ouvrir de gré ou de force. C'est un peu le discours de plein de théoriciens et de praticiens de l'écologie. Hein. C'est que si on ne change pas de manière volontaire, les changements s'imposeront à nous. Et donc, on se dit que cette expérience qu'ont les étudiants, elle leur servira de toute façon, sous une forme ou sous une autre.
Marie, j'ai une question un petit peu plus personnelle pour revenir sur ta présentation du début, sur ce que tu fais aujourd'hui. Tu es un peu multiprojet, multitâche, avec quatre activités distinctes, ton activité de consultant, ton activité de maman, ton activité de professeur et ton activité d'artiste. Comment ça t'est venu? Est-ce que c'était une volonté d'avoir plusieurs petits projets dans ton emploi du temps plutôt que de te restreindre, entre guillemets, à un seul emploi, un seul job? Comment est-ce que tu en es venu à vivre de cette manière?
C'est une très bonne question. Alors, pour commencer par la fin, du point de vue de l'emploi du temps, c'est quand même un peu compliqué à gérer. Donc, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je m'organise quand même un peu mieux. Donc, ce n'est pas si évident.
D'accord.
Mais ça me convient très bien pour l'instant. Après, j'imagine que ça peut changer dans la suite. En fait, je le faisais déjà avant quand j'étais salariée à temps plein. Sauf que j'avais pas de bébé, d'une part. Donc, ça faisait quand même une chose en moins. Et puis, j'avais plus d'énergie. Donc, j'ai toujours quand même fait beaucoup de musique en dehors du boulot. Par contre, j'avais beaucoup moins le temps d'enseigner. Je faisais une conférence par-ci, par-là. Et puis, j'avais pas du tout non plus d'activités associatives dans diverses assos écolos où je suis aujourd'hui. Donc, le travail à temps complet ne me convenait pas de ce point de vue-là. Et puis, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte parce que je suis quand même restée plus de 15 ans salariée, mais je crois que ça ne me convenait pas du tout. J'avais vraiment un sentiment d'enfermement, un manque de liberté. J'ai eu des relations assez conflictuelles avec plusieurs de mes supérieurs parce que ils comprenaient pas que j'avais besoin d'air en fait, tout bêtement. Et puis il y a ce sacro-sainte obsession française du présentéisme, et donc des chefs qui comprenaient pas qu'une fois de temps en temps je partais à 5 heures parce que j'avais un concert le soir, quoi. Donc ça, c'était quand même compliqué à vivre, sachant que par ailleurs le boulot était toujours fait et bien fait. Donc ça a fini par me peser. Et alors après, très concrètement, j'ai fait un bilan de compétences avant d'arrêter mon activité salariée, où le livrable à la fin, on nous demande de fabriquer son projet professionnel. Je n'ai jamais réussi à formaliser un projet, peut-être parce que justement j'avais plusieurs choses en tête. Et donc un peu la mort dans l'âme en me disant, mais vraiment, je trouverai jamais ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est nul. J'ai juste suivi mes envies, en fait. Alors, grâce au chômage, hein, parce que du coup, j'ai négocié mon départ de ma dernière entreprise. Donc, ça laisse quand même, en France, du temps pour réfléchir et pas trop se poser de questions financières. Donc, ça, c'était très précieux. Et donc, j'ai juste fait ce que j'avais envie. Donc, plus de musique. J'ai enfin pu chanter tous les jours, ce que je n'arrivais pas à faire avec mon boulot salarié. Et puis je suis allée voir plein d'assos écolo, donc la fresque du climat, le Shift Project, Greenpeace. Je suis rentrée dans une AMAP. Je suis tombée enceinte assez rapidement après avoir arrêté mon activité salariée, donc voilà. Je suis allée là où j'avais envie. J'ai pris des cours de théâtre sans vraiment aucune idée préconçue, mais j'avais juste cette envie de liberté, en fait. Et puis, petit à petit, ça a convergé. C'est ce qu'on dit, d'ailleurs, dans les bilans de compétences. Hein. Souvent, les coachs vous disent, non, mais mettez-vous sur le chemin et les choses vont se faire toutes seules. Puis, quand on est complètement perdu dans les marécages, là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est juste le stress, là, je ne sais pas où je vais, je fais n'importe quoi. Et en fait, dans mon cas, ça s'est bien... les choses se sont bien combinées, en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai fait dans les assos écolos, ça a nourri mes cours qui ont pu évoluer et du coup être plus centrés sur l'écologie. Et puis, j'ai trouvé des premières missions de conseil un peu par hasard. Je n'avais pas forcément... envie de monter une entreprise parce que je ne voulais pas retomber dans un piège de trop de travail. Et donc, ça s'est fait de fil en aiguille de manière intéressante, très agréable sur le plan humain et avec un temps de travail qui me convenait, qui me permettait de continuer mon auto-formation, on va dire, aux questions écologiques. Et donc, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Après, donc, je me suis arrêtée de travailler en... il y a 3 ans, en 2017. au printemps 2017. Donc j'en suis là aujourd'hui. J'ai cet équilibre qui, alors comme je disais tout à l'heure, qu'il faut gérer, parce que quand même, multi-activité, ça, surtout avec les outils informatiques, ça peut parfois conduire à des débordements. Mais pour l'instant, cet équilibre me va bien. Et puis, bah, j'imagine que ça rechangera. Mais donc, ce n'était pas prémédité, pour répondre à ta question.
D'accord. Je fais un petit saut dans le temps en arrière pour revenir à l'époque où bah, tu travaillais en tant que salarié. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette époque, de ton métier? Pourquoi est-ce que tu es parti dans cette voie? Et ce qui t'a poussé à changer? Tu l'as un petit peu évoqué, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail quels ont été un peu les déclencheurs? Pourquoi, voilà, tu t'es dit non, c'est plus possible?
C'est un processus de long terme. Il y a des petits cailloux qui sont venus se mettre dans ma chaussure assez tôt, assez rapidement, dans mes premiers boulots, mais je trouvais un équilibre. Parce que j'arrivais à faire plein de musique, parce que j'avais pas encore trop de responsabilités, et donc il faut en profiter quand on est en début de carrière, parce que finalement on a quand même plein de choses à apprendre, et on n'est pas trop, enfin moi j'étais pas trop écrasée par la structure, je m'amusais bien en fait, je travaillais sur des projets assez dingues. J'ai commencé au tout début, j'étais embauchée à la RATP, je travaillais sur le projet de réaménagement des Halles à Paris. Et comme ils n'avaient pas d'urbaniste à la RATP, bah, j'étais toute seule à 25 ans sur ce projet en face des plus grands architectes mondiaux. Donc c'était assez dingue. Et, donc vraiment, je m'éclatais au début.
J'imagine.
Et puis, j'ai choisi ce métier parce qu'il y avait cette idée d'essayer d'améliorer le cadre de vie et d'agir pour l'intérêt général. Donc au début, ça marchait. À la RATP, ça marchait bien. Je suis devenue aménageur à l'établissement public d'aménagement de la Défense. Et en fait, je ne travaillais pas sur le territoire de la Défense, mais sur le territoire de Nanterre à côté, où on construisait ce qu'on appelle le projet Seine-Arche, avec beaucoup d'espaces verts, beaucoup de logements sociaux. Et c'était un projet qui avait des bons objectifs environnementaux à l'époque. Donc là aussi, ça correspondait à mes valeurs et c'était hyper sympa au début, il y avait une équipe super, on faisait des bouffes de chantier tout le temps, enfin bon, voilà. On bossait comme des dingues, mais dans une super ambiance. Donc ça, c'était super. Et puis, est arrivée en 2008 une équipe de direction qui faisait de la politique, en fait, alors qu'on était des techniciens, hein. Nous, on fabriquait le programme qui avait été décidé sur ce projet. Et ça, c'était quand même assez difficile de se faire renvoyer dans ses buts sur précisément moi, les valeurs que j'avais choisies pour ce métier, quoi. Et je ne suis pas partie, contrairement à plein de collègues à l'époque, parce que je me suis dit qu'il fallait défendre le projet envers et contre tout. Et donc, je me suis mise à faire Jeanne d'Arc. Elle finit mal, hein, je vous le rappelle. Donc, c'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, mais moi, j'étais jeune, j'étais à fond. Donc, j'ai fait ça quelques années et en fait, très, très concrètement, je me suis épuisée. J'ai continué à faire avancer le projet, je suis devenue membre du comité de direction, tout ça. Donc, c'était aussi intéressant sur le plan professionnel, mais en fait, émotionnellement, c'était dur. Donc c'est là que la grosse fatigue a commencé à pointer. Et puis en parallèle, on était vers autour de 2010, là l'urgence environnementale elle a plutôt grandi, et les projets sur lesquels je travaillais, je voyais qu'il n'était pas plus écolo qu'avant, il était toujours autant, mais pas du tout en rapport avec ce que j'estimais nécessaire. Donc ça commençait à être un très gros caillou dans la chaussure. Et puis, pour ne pas mettre 2 heures à raconter l'histoire, j'ai quand même réussi à négocier mon départ une première fois de cette entreprise.
Et si je reviens sur la fin un peu de ton parcours, donc il y a effectivement cette dégradation des relations au travail qui est empirée, l'accumulation aussi des cailloux dans la chaussure, comme tu le dis, par rapport à la dissonance ou en tout cas la différence qu'il peut y avoir entre ce que toi tu observes par rapport à tes lectures, aux cours que tu donnes au niveau écologique et les actions qui sont prises sur le terrain dans le cadre du travail. Et c'est ça qui a été un peu le déclencheur final pour toi pour passer à autre chose.
Alors, pas tout à fait. D'accord. Sur le plan des valeurs, oui. Et effectivement, j'avais du mal aussi à faire le pas de me sortir de là parce que, en fait, je n'arrivais pas à trouver où est-ce que je pouvais être plus utile, étant donné que dans la société, enfin, la plupart des entreprises sont à côté de l'enjeu écologique. Donc, j'avais ce problème-là. Et en fait, ce qui m'a permis de mettre le pied dehors de ce réseau de contraintes, en fait, c'est donc le travail suivant salarié que j'ai pris après être partie de la Défense parce que je n'arrivais pas à me projeter dans autre chose. Donc, je suis partie pour travailler dans une autre société d'aménagement avec une équipe de direction avec qui je pensais bien m'entendre qui m'avait cooptée, on va dire. Et puis, il y a une directrice générale qui n'était pas prévue dans le tableau, qui est arrivée, qui a été nommée par en haut, et qui a dégagé tout son comité de direction en l'espace de un peu plus d'un an. Et donc, j'ai fait partie du voyage, et donc j'ai pu négocier mon départ. J'étais libre. Et si elle n'était pas arrivée, je ne pense pas que je serais partie de mon plein gré. Donc, je me suis fait donner un coup de pied au cul, en fait, pour le dire clairement.
Ok.
Et ça m'a fait le plus grand bien.
Ok, génial. Donc, c'est vraiment le ok. Donc, en fait, le déclencheur a été un siège éjectable, un petit peu.
Exactement.
Et tu t'es dit quoi à ce moment-là? Tu te sentais comment?
Alors, bon, je me sentais mal, hein, quand même, il faut dire les choses, parce que c'était... puis l'ambiance collective était très difficile, donc voilà, c'est pas des moments très agréables, il faut négocier, voilà, beaucoup d'incertitudes. Mais en fait, j'avais la conviction intime qu'il fallait que je m'arrête aussi pour arrêter de me retrouver dans ces situations très tendues sur le plan humain. Ça laisse quand même des traces, hein. Je pense que je ne suis pas passée loin du burn-out. Donc j'avais besoin de me reposer. Et c'est d'abord ça qui m'a confortée, qui m'a rassurée en fait. Je me suis dit, bon, de toute façon, là, je suis arrivée à un moment où j'ai besoin d'une pause. On avait aussi ce projet bébé qu'on n'arrivait pas... Enfin, ça faisait un an que j'essayais de tomber enceinte. Ça ne marchait pas, mais... C'est quand même compliqué de tomber enceinte quand on se fait maltraiter au travail. Donc, c'était plutôt pour des raisons personnelles que je l'ai pris assez bien. Et la question de la réorientation et du travail, de ce que j'allais faire derrière, je l'ai mise au second plan. C'est ce qu'on appelle un peu lâcher prise aussi, hein. Et les circonstances ont fait que ça s'est plutôt bien passé de ce point de vue-là. Ce qui était difficile, effectivement, c'est du point de vue professionnel d'arriver à... De comment traverser cette période où on ne sait plus très bien se définir. Ça a duré, en ce qui me concerne, peut-être 9 mois, une petite année, de ne pas savoir quoi répondre quand les gens, les amis me disaient « Mais alors, qu'est-ce que tu fais, Marie, dans la vie ?» Et ben, je me sentais assez dévalorisée en fait. Je pouvais plus répondre. Ah ben, je suis directrice de l'aménagement, machin. Et donc petit moment de doute, quoi. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis nulle. Ça va pas du tout. Et donc je balbutiais. Je suis prof. Enfin, je sais pas. Je suis chômeuse. Je finissais par dire je suis chômeuse. Et donc, petit moment de tangage, clairement, sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel, j'étais plutôt bien.
C'est drôle ce que tu dis, parce que j'ai vécu un peu la même chose sur les deux dernières années, par rapport à ce que tu pourrais répondre aux gens quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, puisque j'étais aussi un petit peu en transition entre ma boîte de jeux vidéo, dont j'avais honte, et finalement, mon activité plus ou moins associative ou mes différents projets écologiques. Et à chaque fois, on me disait, tu fais quoi dans la vie? J'arrivais pas à trouver une case. Et comme toi, alors je disais pas, je suis au chômage, mais j'ai dit, je suis homme au foyer. puis bon, comme ça, c'était très simple, on arrêtait de m'embêter.
Oui, je vois tout à fait. Donc ça, c'est quand même pas un moment facile à traverser, hein, surtout quand on a été une voiture de course dans son boulot, à bosser comme une dingue et à toujours être au rendez-vous de ce que tout le monde attendait de nous. Mais ça fait du bien, quoi. Mais c'est sûr que c'est quand même une période qui est un peu trouble.
Et je reviens sur les réactions de ton entourage, ta famille, ton mari et tes amis proches. Quelle a été un peu leur réaction quand tu dis bah, « en fait, je vais faire autre chose, je veux travailler moins, je veux me concentrer sur, par exemple, ma vie associative ». Ils ont perçu ça comment ?
Alors, j'ai pas de souvenir de réaction négative ou perplexité. Je pense que tout le monde voyait que j'étais quand même bien fatiguée. J'avais perdu beaucoup de poids. Enfin, j'ai quand même, ça m'a quand même un peu usée. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça. J'aurais pas posé la question, mais et puis ils savaient que ça faisait longtemps que je me posais des questions. Et je pense qu'ils me faisaient aussi confiance sur le fait que j'allais pas me retrouver à la rue. J'en ai pas parlé directement avec eux, mais j'ai plutôt eu des réactions bienveillantes. Et en fait, c'est aussi une période assez solitaire pour moi, qui était bienvenue, c'est-à-dire que nécessité de mettre les choses au point et donc de sortir un peu du tourbillon aussi des activités, des sorties mondaines. Donc, j'ai pas trop de feedback par rapport à ça.
Plutôt d'accord. Positif. Bah, tant mieux. Et aujourd'hui, par rapport à l'avenir, comment est-ce que tu perçois un petit peu le futur ? Donc tu disais, bah voilà, vraisemblablement les choses vont être amenées à évoluer au niveau professionnel, mais tu as envie de quoi ? Quel est un peu ton futur idéal par rapport à ta vie à la fois personnelle et professionnelle ?
Alors, c'est pas très clair, mais en tout cas j'ai retenu de la période qui vient de s'écouler que on pouvait faire confiance aux choses pour s'assembler et dans un sens qui tombe bien. Je fais attention à mon équilibre personnel. Bon, avec un enfant en bas âge, c'est aussi compliqué à gérer. Mais ma plus grande peur, en fait, ce serait de me retrouver obligée de travailler à plein temps dans une activité unique, parce qu'en fait, là, ce que je fais, c'est du plein temps, mais avec ces multiples activités, je pense que ça reste important pour moi. Et peut-être la chose qui manque ou sur laquelle je me questionne le plus, c'est comment trouver un équilibre, j'allais dire spirituel et psychologique, par rapport à la question environnementale, parce que je trouve ça lourd, c'est hyper lourd de vivre avec ce gros nuage au-dessus de la tête. Alors ça aide beaucoup d'être dans des associations où on peut se parler en connaissance de cause. Comme je dis, on n'a pas besoin de montrer patte verte. On sait que les gens ont ces préoccupations, mais personnellement, c'est assez lourd à porter. Et du coup, on a le projet, là, on va s'installer à la campagne... à la rentrée prochaine, là, cet automne. Mon compagnon va avoir une activité de maraîchage. Et j'ai cette idée que de m'installer dans un environnement plus apaisé pourrait m'aider à trouver un peu plus de paix grâce notamment à une meilleure connexion à la nature par rapport à ces questions environnementales. Mais c'est encore avec un point d'interrogation.
D'accord. Enfin, c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. Hein. Je pense que tout le monde, quand on découvre un petit peu l'urgence climatique ou écologique de manière générale, c'est assez terrifiant. Enfin, c'est hyper anxiogène, hein, très clairement. Pour moi aussi, hein, le fait de se regrouper, entre guillemets, dans des collectifs, que ce soit associatifs ou autres, comme la Fresque, les Shifters, et pouvoir parler, ne serait-ce qu'avec ces gens-là de ces problématiques-là et voir Finalement, il y a plein d'initiatives qui existent, il y a plein de gens qui se bougent, et puis se mettre aussi dans l'action, c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé. Si tu pouvais aujourd'hui parler à la Marie de 2000, nouvellement diplômée, et lui envoyer un message, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ?
C'est difficile comme question. Je lui dirais, ne t'en fais pas, ça va aller. Je crois que c'est le titre d'une BD sur l'effondrement.
D'accord.
J'ai vu la fabrication sur Facebook. Oui, j'aurais envie de lui dire, ne t'en fais pas, aie confiance en toi, les choses vont bien se passer. Mais en même temps, je sais que ça ne lui servira à rien. On lâche la prise, ça ne sert à rien. Je l'ai vécu à un de mes premiers concerts, un ingénieur du son qui me dit, vas-y, lâche-toi, on ne t'entend pas assez. Mais ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qui est un peu impressionné, lâche-toi, c'est au contraire. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un lâche prise, ça c'est pas le bon chemin.
Bah, et du coup, si pour des étudiants ou des gens qui se posent des questions, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ou quel conseil tu pourrais donner?
Alors, l'engagement associatif, hein, comme tu disais, associatif ou autre, enfin, je veux dire, trouver du sens, si possible, dans son travail, c'est encore là qu'on est peut-être le plus productif, mais si c'est pas dans le travail qu'on trouve un sens, de trouver des communautés dans lesquelles on peut s'exprimer, on peut rencontrer des pairs, entre guillemets, pour moi, c'est le plus important. Et puis sortir de cette idée que la responsabilité est individuelle et que c'est les petits gestes qui font les grandes rivières, parce qu'on sait que c'est pas vrai scientifiquement, et puis c'est quand même hyper culpabilisant, donc l'action collective me semble quand même plus pertinente sur le fond et sur la forme, on va dire. Et puis après, faire des petits pas, ça a été mon expérience, et ça marche, et je sais qu'il y a plein de gens qui proposent des bilans de compétences ou des accompagnements pour les reconversions qui conseillent ça. Donc ne pas se dire qu'on est obligé tout de suite de sauter dans l'eau froide. On peut commencer peut-être par aller avec Extinction Rebellion faire quelques actions, et puis peut-être qu'on rencontrera des gens avec qui on aura envie de faire autre chose, ou que ça nous donnera des idées. Donc oui, trouver une communauté, c'est peut-être la première chose.
D'accord, aller à la rencontre d'autres personnes sur des sujets qui nous intéressent, bah, pour tâter le terrain, et puis bah, faire nourrir en fait un petit peu sa réflexion, la faire avancer par la discussion et par les actions que peuvent proposer ces différentes organisations.
Oui, et puis alors moi ça c'est ma pratique du chant et du théâtre, je suis très attentive à ce qu'on peut appeler l'ancrage, ou le fait de se sentir aligné, vraiment aller là où notre cœur nous porte, quoi. Arrêter aussi de faire des calculs et de se dire, bon, je veux dire, faut manger, hein, bien sûr, hein, je dis pas que... Mais quand même, essayer d'écouter un peu ses envies, ça me paraît primordial.
Sortir de la pression qui veut qu'il faut avoir un bon job, une autre carrière, c'est ça que tu veux dire ou...
Oui, dans mon cas, ça a été ça, parce que j'étais déjà, j'étais depuis 15 ans salarié avec un poste à responsabilité, donc c'est quand même compliqué de sortir du rail, hein. La vitesse est rapide et on peut dérailler, quoi. Donc, de me réaligner sur mes envies profondes, ça a été nécessaire. Quand on a un autre moment de sa carrière, où c'est peut-être pas forcément la même impulsion, mais moi j'ai eu besoin de ce recentrage pour me retrouver, en fait.
Et sinon, Marie, est-ce que tu as des recommandations de lecture ou autres sur ces sujets, ou des recommandations d'associations dans lesquelles justement aller toquer à la porte?
Alors les assos, on en a déjà un peu parlé. Moi je suis effectivement chez les Shifters, je fais un peu de bénévolat pour le Shift Project. Et la fresque du climat, j'ai été un moment chez Greenpeace. Bon, mais il y en a plein, en fait, des assos écolos qui font des choses très bien. Avenir Climatique fait aussi des choses super. Extinction Rebellion me dit que si j'avais 10 ans de moins, je serais à tout leur... Et si j'avais pas de bébé, je serais à tous leurs événements. J'aime bien les actions un peu spectaculaires. Je trouve que ça a quand même une efficacité dans nos mondes qui sont quand même des mondes de communication et d'images instantanées. Je trouve ça efficace et je l'ai fait un peu quand j'étais plus jeune. C'est quand même assez jouissif de participer à ce genre d'action. Donc voilà, mais c'est très personnel. Et puis des lectures, bah oui, évidemment, j'en ai plein à vous conseiller. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook là, de Demain, la lecture écolo-musicale. Et puis bah, dans mes lectures récentes, ou peut-être si je devais en choisir... juste un ou deux, L'éthique de la Terre de Aldo et Léopold, c'est un tout petit essai qui fait vraiment réfléchir sur notre rapport à notre environnement et la façon dont il faudrait peut-être le renverser pour arrêter de faire n'importe quoi. Et puis, bah, je suis quand même obligée de citer un livre Jean-Marc Jancovici qui est celui qui... par qui j'ai commencé la sensibilisation aux questions climatiques. Il en a écrit plein. Il y en a un qui est chouette, c'est le réchauffement climatique expliqué à ma fille, je crois, donc qui est vraiment, comme son nom l'indique, vraiment tout public. Et il y en a un autre qui s'appelle C'est maintenant, et qui est très bien aussi, qui date de 2009, mais malheureusement qui n'a pas pris une ride concernant la nécessité d'agir de manière urgente.
Merci beaucoup pour toutes ces recommandations, Marie. Et bah, je te souhaite bon courage dans tes différentes activités et à très bientôt.
Eh ben, merci à toi. Merci pour la proposition. C'est toujours agréable de partager ces chemins qui sont lumineux, mais pas toujours faciles. Donc, à bientôt.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !